Salut à tous et bienvenue dans Bookshelf. A winter's day in a deep and dark December. Pour cet épisode 2, promis, je suis plus variée que pour l'épisode 1, que ce soit au niveau des genres, mais aussi au niveau des pays, puisqu'on va passer de l'Angleterre aux États-Unis, en passant par le Canada. J'ai tout d'abord lu un livre en anglais, il s'agit de 84 Charing Cross Road d'Ellen Hanf, publié aux éditions Virago. Alors dans l'édition que l'on m'a prêtée, parce que c'est un livre que l'on m'a très gentiment prêté, il y a deux livres en un, c'est-à-dire qu'il y a donc 84 Charing Cross Road que j'ai lu, et il y a The Duchess of Bloomsbury Street, que je n'ai pas encore lu. Alors ce n'est pas du tout un roman, c'est la correspondance, donc c'est des lettres, de l'auteur, qui est une écrivaine américaine, qui est aussi scénariste de séries télé dans les années 50-60. Donc c'est sa correspondance avec une librairie londonienne qui s'appelle Marks & Co, pardon, qui se situe 84 Charing Cross Road, d'où le titre. En 1949, elle va écrire une lettre à cette librairie pour leur demander de trouver tel ou tel ouvrage, parce qu'ils sont spécialisés dans les livres anciens. Et elle, c'est une grande fan de littérature anglaise et de livres anciens. Donc, ce qu'elle voulait, elle va leur envoyer, elle va leur demander de trouver. Et c'est Frank Dowell, ou Doel, qui va lui répondre. Donc, c'est un employé de la librairie. Et à partir de là, d'une relation client-prestataire, donc une relation plutôt professionnelle, on va dire, ça va devenir une relation d'amitié qui va perdurer pendant 20 ans. Pas qu'avec Frank, ça va être aussi avec d'autres personnages qui font soit partie de la librairie, soit qui n'en font plus partie, etc. Alors, c'est tout d'abord très très bien écrit. C'est-à-dire que déjà, le niveau de langue, c'est pas super compliqué. Si c'est votre première lecture en anglais, faut déjà avoir plutôt un certain niveau. Mais bon, ça reste quand même, vraiment sympa à lire. Je parle au niveau de la langue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bien écrit et des fois, ça fait du bien de lire des choses avec un langage assez riche, ou des tournures de phrases assez riches. Sans forcément en faire énormément, mais ça marche bien, là. C'est agréable. C'est comme des fois, j'aime bien lire des romans classiques français, parce que, bon, déjà, l'histoire, elle est sympa, mais même aussi pour le niveau de langue qui est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, et c'est quand même agréable des fois d'avoir une certaine richesse dans le vocabulaire, dans le style que l'on n'a pas aujourd'hui. Et là, c'est pareil. J'ai bien aimé le fait que ce soit très bien écrit, assez riche, sans que ça affecte la compréhension. Bon, j'ai pas compris tous les mots ou toutes les phrases, mais quand même une bonne partie que j'ai compris. Heureusement pour moi. C'est pas inaccessible. Je conseillerais pas ça comme premier livre en anglais, mais c'est pas très 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 compliqué, quoi. C'est juste plus riche que ce que l'on a l'habitude de donner aux gens pour débuter en anglais. C'est vrai, c'est authentique. Le fait que ce soit un format épistolaire, c'est déjà pas mal, même si c'est pas un format que j'adore par-dessus tout. J'aime bien. Mais le fait que ce soit une vraie correspondance, ça rajoute en fait... ça rajoute de la plus-value au format. C'est vrai, c'est authentique, c'est des lettres qui ont été écrites dans le but d'être envoyées à quelqu'un pour que cette personne lise. Ce n'est pas un roman qui est épistolaire, mais avec des personnages fictifs, et donc voilà, qui sont plus un prétexte pour raconter quelque chose au lecteur. Ce n'est pas du tout ça. Et j'ai encore une fois bien aimé ça, ce côté authentique avec les vraies lettres, tout ça, c'est déjà très intime. C'est très intime, mais même si l'auteur est décédé il y a 10 ou 10, 15 ou 20 ans, je ne me rappelle plus. Mais ça fait quand même assez... Oui, ça fait vrai, ça fait authentique, c'est des personnes qui ont vraiment existé. C'est plaisant, et c'est aussi très touchant. Il y a des... Je l'ai lu il y a un moment, mais il y a des passages où c'est... J'ai failli pleurer. Je crois que j'ai failli pleurer à certains passages, surtout vers la fin. Vous verrez si vous lisez. Sinon, surtout la fin m'avait bien touchée. C'était vraiment... C'était peut-être pas la chose la plus poignante qui soit, mais quand même, ça avait failli me faire pleurer. Donc bon, ça avait bien marché, on va dire. Mais... Le point faible, mais c'est aussi... C'était inévitable, c'était inévitable par rapport à ce bouquin, c'est que c'est pas très dynamique, c'est un peu lent parfois. Mais bon, c'était une vraie correspondance, donc des fois elle a pas non plus, elle ou ses correspondants n'ont pas non plus des choses extraordinaires à raconter à chaque fois, hein. C'est pas de la fiction, donc c'est des fois la réalité c'est un peu lent. Ça manque parfois de dynamisme, mais bon, c'est vraiment pas grave du tout. C'est un livre qui se... J'allais dire qu'il se déguste, mais c'est... C'est-à-dire qu'on prend son temps. D'un côté, on a envie de prendre son temps, parce que c'est pas non plus tout le temps. Ça bouge pas de partout, c'est pas un livre d'action. Mais de l'autre, c'est en fait... J'ai dû m'arrêter de lire, en fait, pour... Non, c'est bon, tu vas t'arrêter maintenant, parce que sinon tu vas y passer un temps pas possible. C'est très ambivalent, ces deux sentiments-là, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Si vous voulez lire un livre avec un bon niveau d'anglais, qui est vraiment sympa, et si vous voulez autre chose que de la fiction, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. C'est une correspondance qui est vraiment agréable, et j'ai oublié de vous le dire, mais le deuxième livre du volume, qui est The Duchess of Bloomsbury Street, c'est en fait la suite... De la correspondance, mais cette fois ce n'est plus au format, c'est plus un format journal cette fois, non c'est pas plus vu que je viens de voir qu'il y a des dates, donc, je pense que c'est des extraits de son journal, donc déjà si vous voulez en savoir plus sur la relation qu'il y a après, vous pouvez lire Duchess of Bloomsbury Street, et sinon, non c'est vraiment un livre très sympa qui paye pas de mine, et vraiment très agréable. J'ai également lu des comics, et le premier est Black Science, le tome 1 de Charib Ancilla, ou Scylla, je ne sais pas. Donc avec au scénario Rick Remender, Matteo Scalera au dessin et Dean White à la couleur, le tout publié chez Urban Comics. Alors pour l'histoire, c'est Grant McKay qui est le fondateur de la Ligue anarchiste scientifique. Et ce scientifique a créé le Pilier, qui est une machine permettant de voyager à travers les dimensions. Ces différentes dimensions qu'il va appeler l'infinivers. Mais un incident survient et coince McKay et son équipe, et ses deux enfants, parce qu'évidemment il avait amené ses gosses avec lui, c'est ballot. Non, tout ce petit monde est coincé dans les différentes dimensions. Et ils essayent de sortir donc de ça et de rentrer chez eux. Alors les points forts de ce comics, c'est... déjà on va commencer par le scénario, donc c'est une histoire très intéressante, c'est très captivant. C'est de la science-fiction, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué dans le résumé. Bref, c'est de la science-fiction, mais c'est... Moi j'ai trouvé l'histoire vraiment captivante, vraiment intéressante. C'est... Les personnages sont bien travaillés, sont tous intéressants, même les connards de l'histoire sont vraiment intéressants, ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur eux. C'est, oui, certains personnages même qu'on voit très peu sont, au final on finit par s'attacher à eux et ça présage vraiment du bon pour la suite au niveau au niveau de la psychologie des personnages. Donc c'est vraiment très bien écrit. L'histoire est vraiment très intéressante. Si on aime la science-fiction, c'est vraiment plaisant. Après, oui, il y a aussi l'action. L'action, elle est très bien dosée, elle est très bien gérée, le bouquin est très bien rythmé. Il y a des moments vraiment d'action assez intense, mais après, il y a des moments beaucoup plus posés, beaucoup plus... Pas d'introspection, mais plus de questionnement sur certaines choses. où le personnage se questionne, tout ça, et c'est... Non, au niveau de l'action, c'était pas du tout ennuyeux, c'était ce qu'il fallait. Il y avait juste assez d'action pour que ça ne soit pas long et chiant, disons-le clairement. Mais en même temps, c'était pas non plus un trop plein d'action qui nous aurait dégoûté, en fait. C'est vraiment très bien rythmé, c'est vraiment très appréciable. Les dessins sont assez anguleux, je pense que ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais moi, ça m'a bien plu, c'est vraiment assez... C'est particulier comme style, c'est assez unique. Non, moi j'ai bien aimé, en fait. Je trouve que ça s'intègre vraiment très très bien dans le récit. Je pourrais pas voir en fait les personnages autrement que comme ça. Il y a vraiment une identité visuelle qui est très... En tout cas au niveau des traits qui sont... C'est vraiment très marqué et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les visages anguleux, tout ça. C'est vraiment sympa. Ça a vraiment son charme. Et au niveau de la couleur, c'est vraiment... On parle assez peu des coloristes, mais là c'est vraiment... Waouh! Vraiment un grand bravo à Dean Waite pour la couleur. Outre le prix, parce que c'était à 10€ quand j'ai acheté. Il y avait une offre spéciale. Outre le prix, donc... Il y avait aussi, en fait, surtout la couleur qui m'avait attirée, parce que c'est des couleurs... Autant il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de planches assez sombres, assez grises, vert foncé, presque noir. Mais autant, des fois, il y a des couleurs très claires, très... pas claires, très... très lumineuses, c'est... Si vous voyez la couverture, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. C'est très très flash, très très saturé en fait, j'ai l'impression au niveau de la couleur. C'est vraiment très très beau que ce soit. Donc sur la couverture, on le voit bien au niveau du rose, mais après il y a les bleus, les jaunes, c'est comme ça, c'est vraiment très saturé mais contrasté avec ces tons foncés des arrière-plans, c'est vraiment très plaisant, c'est très très joli. Franchement, au niveau de la couleur, il n'y a rien à dire. Super bon travail au niveau de la couleur. Les dessins aussi, hein, mais vraiment, on n'en parle pas assez des coloristes. Donc, non, je salue vraiment le travail de Dean White à ce niveau-là. Et le seul point faible de ce comics, à mon sens, c'est que l'histoire est un peu trop complexe par moment. Je m'explique, c'est qu'en fait, l'histoire, elle est captivante, certes elle est intéressante, certes c'est plutôt un page-turner, c'est un page-turner, mais après, disons que c'est en fait trop complexe, des fois, elle est tellement originale, tellement fournie, avec plein de détails, que assez subtil aussi, il y a beaucoup d'informations, et donc des fois on se souvient pas de tout, il faut s'y prendre à plusieurs reprises, et je vous avoue que ce comics-là, je l'ai lu il y a quelques mois. Et je me souviens plus, en fait. Si, je me souviens des grandes lignes, mais je me souviens pas de toutes les subtilités de l'histoire. Je vois à peu près la grosse intrigue, le gros fil rouge, mais je me rappelle plus de toutes les relations entre les personnages, tout ce que pensent tous les personnages, de quel stade ils en sont au niveau psychologique, tout ça, je ne m'en souviens plus. Tellement, en fait, il y a d'informations, tellement il y a de... Il y a tellement d'informations que, bon, on s'y perd. C'est vraiment le seul défaut que je donnerais à ce comics. C'est ça. Il y en a un petit peu trop. Des fois, on perd un petit peu. Mais vraiment, je recommande. C'est de la science-fiction très jolie. Au niveau des couleurs, c'est magnifique. Les dessins sont vraiment pas mal non plus. Au niveau du scénario, c'est vraiment captivant, intéressant. En plus, le livre-objet est magnifique, mais bon, ça c'est un peu comme tous les livres de chez Urban Comics. Donc voilà, je vous recommande vraiment beaucoup, et j'ai vraiment hâte d'acheter le tome 2. Et pour finir, je vais vous parler des deux derniers tomes de la série de comics Scott Pilgrim, donc les tomes 5 et les tomes 6, de Brian Lee O'Malley, publié chez Milady. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler les deux derniers tomes de cette série, parce que sinon je serais quelqu'un d'absolument immonde et d'absolument dégueulasse. Mais grosso modo, si vous n'avez jamais lu la série, on va suivre Scott Pilgrim, qui est un jeune Canadien de 24 ans, qui a d'une vie tout ce qu'il y a de plus banal. Il ne fout rien, il vit en colocation avec Wallace, une personne assez exubérante, gay, un peu nympho aussi. Scott est dans un groupe de rock, avec des amis à lui, tout se passe bien et tout ça. Bref, une vie banale. Et un jour, il va rencontrer une fille, pas banale justement, Ramona Flowers, donc qui est une fille qu'on n'arrive pas à cerner, qui est assez mystérieuse. Il va en tomber amoureux, mais pour pouvoir sortir avec Ramona, il va devoir combattre les 7 ex-petites amies maléfiques de cette dernière. Et donc évidemment, dans chaque tome, on va suivre plus ou moins les combats avec contre les petites amies maléfiques. Donc, je vais vous parler rapidement du tome 5. Pour moi, c'est vraiment le moins bon de tous. Je l'ai trouvé moins drôle, moins captivant, donc un peu plus long. Il a paru plus long, alors qu'en fait, il fait à peu près le même nombre de pages que les 4 précédents, sauf le dernier qui est plus épais. Non, j'ai moins accroché à celui-là. Scott Pilgrim, c'est une série qui est complètement barrée, qui est très drôle, mais c'est vraiment... What the fuck ? Il y a des événements qui se passent. C'est pas logique, mais on doit les prendre comme ça. Par exemple, il peut y avoir un bonus, comme dans les jeux vidéo, un bonus d'argent, tout ça, qui va tomber du ciel comme ça. C'est plus, plus 700 en XP, en expérience. Il n'y a pas de logique, ça se passe comme ça, mais c'est ok, on prend. Très bien. Moi, j'aime bien ça. Mais voilà, ce tome 5, pour moi, ça l'a moins fait. Certes, il y a le cliffhanger à la fin qui donne envie de lire la suite et qui est plutôt bien fait, mais bon, c'est pas non plus... C'est vraiment pas le tome que je préfère. Au niveau des dessins, si vous voulez vous lancer, c'est un style un peu manga. D'ailleurs, l'édition que j'ai, moi, qui est la première édition, c'est un peu en format manga. C'est à peine plus grand, je pense, qu'un manga. C'est un style un peu manga aussi au niveau du dessin, c'est un peu chibi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire c'est petit et mignon. Mais moi ça ne me gêne pas du tout, moi j'aime bien ce style, c'est assez particulier, c'est assez singulier, mais bon, si vous lisez des mangas, je pense que ça pourrait vous plaire. Le seul souci, c'est qu'il y a un manque de colorisation, pardon. Et c'est un petit peu dommage parce que parfois, certains personnages se ressemblent, et on est un peu confus. Des fois, on est obligé de s'arrêter, se demander « Mais c'est qui, là ? C'est quel personnage ?» J'arrive pas à trouver qui c'est. C'est juste ça. Mais pour info, si vous voulez acheter Scott Pilgrim, il y a une nouvelle édition qui est refaite toujours par Milady, mais c'est des grands formats, cette fois, en hardback, donc en couverture cartonnée. Et c'est une version colorisée, donc cette fois-ci, vous ne serez pas perdu. Mais bon, moi, j'ai les premières éditions et ça m'a pas énormément gêné. Par moments, si, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas un gros, gros point négatif. Donc voilà, le tome 5, je l'ai trouvé moins bon que les autres. Par contre, le tome 6, oh mon Dieu, le tome 6, la fin est absolument magistrale. J'ai adoré. C'est vraiment très drôle, beaucoup plus que le tome 5, mais j'ai l'impression que c'était encore plus concentré dans le tome 6. C'est super drôle, il y a des rebondissements vraiment hyper sympas, hyper intéressants. Il y a une très bonne évolution des personnages. C'est aussi un reproche que je fais au tome 5, c'est-à-dire qu'il y a un personnage féminin, il y a des redondances et ça commence à me gaver. Je pensais qu'elle avait évolué au tome 4, mais non, elle refait les mêmes conneries dans le tome 5 et ça m'a un peu gavé. Mais dans ce tome 6, non, ça s'est réglé pour ce personnage-là, mais pour les autres personnages aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne évolution des personnages, et c'était vraiment un plaisir de lire ça. L'histoire est très bien menée, vraiment, je répète, mais la fin est absolument magistrale, je trouve, c'était la meilleure fin qu'il puisse y avoir pour cette série. J'adore. Le seul souci, c'est que, lors de l'affrontement avec l'ultime petite amie maléfique, à un moment, il y a des explications qui sont pas toujours très 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 claires. J'ai relu 3 fois le passage en question et j'ai toujours pas compris. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Donc je recommande vraiment ce tome 6 et je recommande en fait cette série de comics de comics indé qui est vraiment très geek, très, très barré, très what the fuck, mais qui est vraiment très sympa à lire. C'est vraiment des lectures détentes. Vraiment, j'adore ce que fait O'Malley. J'ai lu Seconds aussi de lui et c'est vraiment très bon. Donc voilà, si vous voulez commencer à lire des comics qui ne sont pas des super-héros, ce qui change un peu, ou si vous voulez vous mettre aux comics indé, vous pouvez y aller. Scott Pilgrim, c'est vraiment génial. Vous pouvez retrouver le podcast sur PodCloud à Bookshelf, mais aussi sur Twitter à @bookshelfpdc. Bonne lecture et à la prochaine! And a rock feels no pain, and an island.